Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Académie. Quelques définitions de vocabulaire pour commencer, si vous le voulez bien. Un bibliophile, nous dit le dictionnaire de l'Académie, est un mot issu du grec « biblios », le livre, et « philos », l'ami. Jusque-là, tout va bien. Et définit donc une personne qui aime et recherche les livres rares et précieux. Et sur ce mot s'est forgé, au XIXe siècle, un autre mot féminin, « bibliophilie », qui s'applique au goût et à la recherche des livres rares et précieux. Mais deux bibliologues, point. Du moins dans le dictionnaire de l'Académie, car dans le studio de Canal Académie, j'ai le plaisir de me trouver avec notre bibliologue, c'est-à-dire notre spécialiste qui parle si bien de bibliophilie et raconte avec talent les heures et malheurs de ces fameux livres rares et précieux. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Bertrand Gallimard Flavigny, qui tient régulièrement sur Canal Académie une rubrique de bibliophilie intitulée justement de ce néologisme qu'il a lui-même créé, le bibliologue. Bonjour.
Bonjour. Je suis le bibliologue.
Voilà, je suis le bibliologue.
On vous écoute. Pas tout à fait, c'était pas moi qui l'ai créé ce mot.
Rectifions.
Mais la mémoire me fait défaut. Je l'ai lu quelque part.
Ah, donc c'est une réminiscence. Aujourd'hui, vous créez, vous n'hésitez pas, décidément, rien ne vous arrête, un autre néologisme, la bibliopholie. Mais là, dans le titre du livre que vous publiez, Bertrand Gallimard Flavigny, c'est bibliopholie au pluriel. C'est un ravissant petit ouvrage que vous avez publié en cette fin d'année 2008 et qui rassemble plusieurs de vos chroniques du bibliologue, mais pas tout à fait les chroniques qu'on a dans Canal Académie, n'est-ce pas? Vous n'avez pas tout choisi, il y en a d'autres, c'est pas tout à fait les mêmes.
Non, c'est un choix de différentes chroniques qui sont parues dans un gros quotidien, dans un quotidien juridique, dans Canal Académie, dans d'autres endroits encore, parce que finalement je sévis un peu partout. Et là, il y en a 59.
59 en tout.
En tout. Et on en avait prévu 60 et puis il y en a une qu'on a retirée.
Ah bon, ben voilà, écoutez, pourquoi
je
pas.
Je ne sais plus laquelle.
Libre choix. Moi, j'aime bien les tout petits livres, je dois dire, on les tient en main, on les caresse, on les cajole. Alors j'aime bien les petits ouvrages, c'est évidemment plus pratique à tenir que les très gros, mais ça n'empêche pas. Dites-moi, quelle est, dans ces chroniques de bibliophilie, quelle est celle qui vous enchante? Une particulièrement?
Une particulièrement, parce que je vous dirais toutes, mais il y en a une. Alors, je vais refaire la même chose. Bonjour, je suis le bibliologue. Mais je rajoute quelque chose, car il y a un surtitre. Jean Cortot, illustrateur. Et le titre, Socrate, Déon et Cortot. Alors, Michel Déon l'a voulu même, après 1000 lectures de Chateaubriand à Henri Miller et André Frégnaud, un jour s'est imposé la nécessité impérieuse de découvrir la réalité grecque. Bon, il en a été tellement enchanté qu'il s'est installé un temps sur un balcon nommé Spetsé. Socrate s'est imposé à lui, il est devenu l'un des témoins de ses derniers instants. Dernière nouvelle de Socrate est un conte philosophique qui met en scène le geôlier, le philosophe, cinq de ses amis et un sixième au visage voilé, Xantippe, sa femme. Un tel texte méritait d'être porté sur un hôtel bibliophilique. Il a été imprimé en 1996 par l'Imprimerie nationale à 60 exemplaires. Mais auparavant, Marie-Claude Char, en maître d'œuvre, avait réuni les ingrédients indispensables à une telle réalisation, celle que l'on nomme une édition originale illustrée sur beau papier. Le papier, justement, un vélin fort, filigrané, à la salamande, ce qui donne au toucher une impression de tissu un peu rêche, comme les draps dans lesquels on se glissait autrefois dans nos maisons à la campagne. Le caractère ensuite. Le texte a été composé à la main en gautier, corps 24, 4 mm environ de hauteur, du nom d'un fondeur de caractère qui les dessina dans les années 1950, dans la tradition de Grand Jean qui créa au XVIIe siècle le Romain du Roi, exclusivement réservé aux travaux de l'imprimerie royale. Comme le souligne un typographe anglais, Stanley Morrison, pour qu'une typographie soit invisible, il faut qu'on ne la marque pas. Autrement dit, qu'elle serve d'abord le texte. Qui donc pouvait apporter à Socrate une illustration discrète et en correspondance avec son propos, sinon Jean Cortot, un académicien, né en 1925. Pour commencer, il avait déjà illustré un autre texte de Michel Déon, Ouest-Est, publié en 89. Il devait récidiver en 98 avec Jeu du miroir chez Fata Morgana. Et depuis 40 ans, cet artiste, affranchi de tout mouvement, participe à la réalisation de livres-objets et surtout accompagne de tableaux-poèmes les œuvres des plus grands de notre temps, René Char, Saint-Jean de Perse, Paul Valéry, Guy Lévic, Michaud et Jean Tardieu, qui définissaient ces lithographies lettristes comme des formes sinueuses et complexes, à la fois parlantes et confidentielles, tantôt surgies de l'ombre comme des oracles, tantôt enfouies dans la couleur comme des souvenirs consumés. Et pour les dernières nouvelles de Socrate, Jean Cortot a composé 12 gravures représentant des frises à motifs bleus, blancs et noirs, encadrant des inscriptions en grec. « Ce que je vais apprendre, nul ne le saura jamais. J'entre dans l'ère du secret », peut-on lire. Quel est donc le texte original, celui représenté par le graphisme de l'artiste ou par les caractères de l'écrivain ?
Vous l'entendez, notre bibliologue est intarissable. Il ne peut pas s'empêcher de nous raconter des histoires. Mais comment vous trouvez les sources de toutes ces histoires, Bertrand Gallimard Flavigny ?
Pour prendre l'exemple de cette chronique qui réunit donc deux de nos académiciens, parce que là, on a quand même fait très fort.
Académie française et Académie des Beaux-Arts.
Académie des Beaux-Arts.
C'est quand même joli.
C'est quand même joli. En fin de compte, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un certain moment, je parle de l'ingrédient nécessaire pour composer une édition illustrée contemporaine. Moderne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, vous prenez une gravure, vous prenez un texte d'un moine tibétain ancien et vous mélangez tout ça et ça fait un livre. Non, c'est pas vrai, ça fait pas un livre. Un vrai livre, c'est fait avec un illustrateur et un auteur, je parle d'un livre illustré bien sûr, et un éditeur. C'est-à-dire que l'éditeur, c'est lui qui va chercher, qui va savoir unir l'illustrateur et l'auteur, le texte et l'illustration, et les faire composer et composer l'ensemble. On ne peut pas fabriquer un livre illustré comme ça. Et malheureusement, c'est que ils sont nombreux, ces livres, qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont pas cette essence. Et je suis tombé un jour dans un salon spécialisé qui s'appelle Page, je crois qu'il y en a un bientôt, où il y avait, je ne sais pas, 750 exposants ou presque, et là-dedans, mais rien qui n'arrivait à me toucher, rien de drôle, rien d'amusant. Et tout d'un coup, sans savoir d'ailleurs que j'étais au stand de l'Imprimerie nationale, donc ce n'est même pas un choix précis, j'ai vu ce livre. Et je l'ai senti. Bon, puis après, j'ai vu que c'était Cortot Déon. Alors, c'était merveilleux. Et en plus, Socrate. Donc, moi, j'avais gagné. Et j'ai découvert ensuite que c'était Marie-Claude Char, qui est un bon éditeur, qui l'avait composé. Donc, c'était l'intuition. Mais en dehors de cela, là, c'est un exemple pour vous expliquer comment j'ai réalisé ou choisi ce sujet. Si vous voulez, en dehors de cela, je reçois beaucoup de catalogues de
oui,
libraires.
Oui, c'est ça. Il faut vous informer. Il faut avoir des dates, des sources.
Je suis curieux. Donc, j'ai toujours 5 ou 6 catalogues de libraires que je reçois. Je sais que chez l'un ou l'autre, on en trouve davantage ce que je cherche. C'est-à-dire, ce qui m'amuse, ce qui me plaît, c'est la curiosité. Je vous parlerai bientôt, un jour, d'un traité de police au XVIIe ou XVIIIe siècle. Parce que tout d'un coup, ça m'amuse. Il faut que ça m'intéresse. Alors, il y a la littérature. Et le choix qui a été fait dans ce volume, Bibliopholie, qui a été fait essentiellement par l'éditeur, Jacques Tamade, parce que moi, j'étais incapable de faire un choix, tout était bien, naturellement.
Mais modestement.
Oui, non, pas modestement.
C'est non, mais tout vous intéressait, lui, il en a choisi 59.
Donc, il m'a dit, on va d'abord faire... il m'a dit, tu me fais un choix. Nous nous connaissons depuis un certain temps. Et je suis arrivé, je lui ai dit, écoute, voilà ce qu'on pourrait faire, puisque tu voulais le littéraire, on pourrait aussi faire, j'avais pensé des voyages, et puis là, la curiosité, il me dit, je comprends bien, tu demandes de faire 3 livres. Alors, on va faire autrement. Tu me laisses. Je prends tout ce qui est littéraire, tous ces éléments littéraires, j'avoue, j'en avais oublié, et je rajoute celles qui me plaisent. Et c'est lui qui a fait le choix. Il valait mieux, d'ailleurs.
Remplissant son rôle d'éditeur, en
exactement.
Effet.
Exactement. Et là, on retrouve. Il m'a proposé, il m'a dit, voilà, en couverture. Alors, la mise en page, bon, c'est lui qui l'a fait, bien sûr, et elle ressemble à celle de ses autres livres, c'est-à-dire des livres, petits livres élégants, avec un beau caractère et un papier correct qu'il va chercher, qui est légèrement bistré. Et il m'a dit, j'aimerais une couverture qui puisse à la fois nous rappeler la bibliophilie, et finalement, c'est un papier cerise. Alors qu'on ne se méprenne pas, ça ressemble davantage à un marocain rouge. Bon, évidemment, ce n'est pas du marocain, c'est du papier, mais c'est un rouge un peu soutenu.
Mais ça va avec, effectivement, les livres anciens.
Ça va avec les livres anciens. Mais la bibliophilie, c'est aussi, comme vous l'avez vu avec Cortot Déon, même si ces deux respectables académiciens ont dépassé les 80 ans, ce sont des modernes, ce sont des contemporains, de toute façon. Et donc la curiosité, oui, je crois que c'est la curiosité qui me conduit. Bon, les lettres, la littérature, Et vous avez les originales du Cid, vous avez des textes de Valéry, vous avez des textes d'un tas d'auteurs, je ne peux pas tous les citer. Et il faudrait que je prenne la table des matières et que je le lise, ça ne fait pas très bien. Mais c'est effectivement la curiosité. Et tout d'un coup, ce qui m'amène, vous avez un texte d'Anatole France sur l'île des pingouins. Bon, un texte qui n'est pas très connu, mais en plus il est amusant. Vous avez un texte de Pierre Loti sur la ville rose. La ville rose, c'est au Rajasthan. C'est un texte qui est sorti et qui a été publié sur papier rose. Donc c'est toujours les petites choses, et pourquoi, et le comment. Je ne sais pas s'il est là, mais il y avait un texte d'un voyage qui... C'était pas Loti, mais c'est un personnage qui aime davantage les messieurs plutôt que les dames, mais qui se montre très amoureux d'une dame turque, qu'il découvre à Malte. Bon, pour ceux qui me connaissent un peu, Malte, c'est une obsession aussi. Donc, vous voyez, tout ce genre de choses, je mélange, et puis je vais chercher un peu plus.
Alors, avouez-nous maintenant votre péché de bibliophilie. Il vous fait faire vraiment des folies ?
Non, parce que je préfère raconter des histoires. J'ai la chance d'avoir entre les mains des ouvrages précieux. Et vous pensez bien que... Enfin, vous ne le savez pas d'ailleurs, mais les ouvrages précieux, je peux difficilement les acquérir. Mais je peux les toucher.
Dans les bibliothèques, on peut... Alors, dans les librairies,
c'est dans les librairies
spécialisées.
Les librairies, il y a justement, d'ailleurs,
j'ai un réseau de libraires que vous connaissez,
je les appelle, ils se lisent. Mais un exemple, la chronique n'est pas dans ce petit livre. Je découvre, c'était dans une foire de libraires d'anciens à Milan, et c'est un libraire que je connais un petit peu, je découvre un petit ouvrage relié en peau de vélin, qui datait du XVIIe siècle, intitulé « Le langage des tétons ». Bon, on n'est pas moins homme et on se précipite. C'est un langage galant, ça n'a rien de pornographique, bien entendu.
Je m'en doute.
Et c'était un plaisir de la langue française du XVIIe. Et je suis là, debout, dans le stand, quitte même à m'asseoir par terre en train de lire. À ce moment-là, le libraire me dit « Écoutez, allez, mettez-le dans votre poche, lisez-le et vous me le rapporterez. » Il était quand même à 800 euros. C'était quand même me faire confiance. Et quand j'ai repris l'avion dans la file, ou avant de passer les contrôles, j'étais en train de lire mon petit livre du XVIIe siècle avec un plaisir non dissimulé. Et naturellement, je n'ai pas pu faire autrement que d'en faire une chronique, de savoir qui était l'auteur. Je n'ai pas trouvé. On m'a dit que c'était un tel, mais je n'ai pas la preuve. Et d'essayer d'identifier, de raconter ce qu'il y avait, et j'en ai fait une chronique. Et puis ensuite, je suis allé trouver d'ailleurs Jacques Damas, l'éditeur, en disant « Regarde ça !» Et nous avons publié ce texte. Donc, vous voyez, ça va. Il y a un plaisir, il y a une curiosité, il y a une joie.
Trouver l'objet et après chercher les informations sur l'objet.
L'information,
voilà, sur le livre.
J'ai un livre, savoir tourner autour. Alors, savoir ce qu'il y a dedans, mais tourner autour.
Donc, c'est bien ce que je disais, heures et malheurs, tenant et aboutissant de ces livres rares et précieux. Alors, Bertrand Gallimard Flavigny, vous avez aussi publié durant l'été 2008. Printemps 2008, un ouvrage qui regroupe des histoires extraordinaires, mais là que vous avez écrites vous-même, ce sont des nouvelles. Ça s'intitule « La poignée de porte », je voulais aussi le signaler. C'est dans une jolie édition également, aux éditions Séguier, « La poignée de porte ». Alors je voudrais dire que ces deux ouvrages peuvent très bien constituer de jolis petits cadeaux pour les amateurs, en effet, de livres ravissants. Merci beaucoup Bertrand, et puis continuez vos chroniques sur Canal Académie. Nous sommes toujours heureux de vous entendre. On apprend beaucoup de choses grâce à vous, et il faut le croire puisque vos émissions sont extrêmement téléchargées. Merci à tous nos auditeurs.
Merci Hélène, et aux auditeurs.